Bonjour à toutes et à tous, nous sommes entre Loire et Loing, c'est le magazine du Gâtinais sur ses deux ailes et sur les réseaux. Car oui, il n'y a pas que l'émission de radio entre Loire et Loing que vous écoutez actuellement sur ses deux ailes. On a aussi la chaîne YouTube, la page Facebook notamment, où vous pouvez retrouver plein de choses, des infos, des interviews en vidéo qui ne sont pas forcément diffusées à la radio. Par exemple, le week-end dernier, nous étions au festival Musicaire à Montargis et nous avons interviewé pas mal d'artistes qui se produisaient sur scène là-bas. Et tout ça c'est sur Facebook, ça va pas forcément passer en radio et vous verrez toute l'équipe donc là-bas. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, nous aurons une longue discussion avec Jean-Pierre Danel, guitariste, producteur, écrivain, touche-à-tout. Il raconte son parcours dans un livre qui vient de sortir intitulé « Cordes sensibles » et c'est plein d'anecdotes assez passionnantes, vous verrez. Mais avant cela, nous irons faire un tour du côté du collège Paul-Éluard qui faisait une opération collège ouvert cette semaine. Mais ce n'est pas nous qui avons fait le reportage sur place. Ce sont des collégiennes Anaïs et Maïline. Donc, qui participait elle-même à l'opération. Alors là, si c'est pas de l'immersion, vous verrez tout à l'heure. Un peu de musique pour commencer.
Are you lost and lonely and no home time? Did you arrive just away? Keep it, did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking just like you got some notion? Do you see a mirror where I see an ocean?
Nous sommes entre Loire et Loing, c'est le magazine du Gâtinais sur ses deux ailes, avec dans les studios aujourd'hui deux jeunes collégiennes qui participaient cette semaine à l'opération Collège Ouvert au collège Paul-Éluard à Chalette. On a Anaïs et Maïline dans les studios qui ont fait du coup un petit reportage sur cette opération à laquelle elles ont elles-mêmes participé en tant qu'élèves. Bonjour les filles.
Bonjour.
Donc allez-y, vous avez fait un petit reportage.
Oui, donc nous avons effectivement fait un reportage du collège Paul-Éluard qui comporte un peu plus de 700 élèves. Donc le but de l'école ouverte étant d'allier le travail et l'activité, ainsi que nous l'a expliqué Steven, assistant d'éducation au micro d'ACAN.
Alors déjà, il faut savoir que la journée elle est divisée en deux. Le matin, on accueille les élèves et on leur propose un peu des révisions et une remise à niveau pour tous les élèves qui passent en seconde générale et technologique. Faut savoir qu'avec le Covid, ils ont pris du retard, donc on essaye de remettre un petit peu tout le monde à niveau. Le midi, un temps de repas, pique-nique tous ensemble. Et puis l'après-midi, des activités. Donc là, on est sur trois activités différentes. Le poney, le paintball et la radio. Donc l'atelier radio que nous faisons en ce moment. Et peut-être un petit peu de sport collectif si le nombre d'élèves nous le permet.
D'où vient cette idée ? Madame Danilou, CPE du collège, va pouvoir nous l'expliquer.
Donc c'est un dispositif national que nous avons choisi de mettre en place ici au collège Paul-Éluard. Il y a plusieurs sessions dans l'année scolaire. Donc là, en juillet, on a choisi de le mettre en place pour nos élèves de 3e qui vont donc s'inscrire en seconde à la rentrée prochaine afin de préparer leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions.
Très bien. Et comment sont choisies les activités ?
Alors, les activités sont choisies en lien avec tous les participants de l'école ouverte et notamment avec le service jeunesse de Chalette-sur-Loing. Donc voilà, on essaie de privilégier des activités culturelles, sportives, artistiques, variées.
A-t-il été facile de les maintenir malgré ce contexte sanitaire ?
Ça a évidemment obligé à quelques adaptations, notamment on essaie de ne pas trop brasser les groupes d'élèves. Mais à part ça, on a tenu à les mettre en place car ça nous semblait important au sortir de cette crise sanitaire que les élèves puissent se retrouver et faire des activités ensemble.
C'est un dispositif apprécié par les élèves, comme va en témoigner Éminée au micro d'Assouman.
Le concept m'a beaucoup plu puisque c'est mes derniers moments que je passe au collège et passer du temps avec les élèves, avec les activités.
Pour nous, l'école ouverte nous a permis de renouveler l'expérience et de lever nos appréhensions, que ce soit pour l'entrée en 6e ou actuellement en 2e.
Et de découvrir l'expression radiophonique à travers ce reportage que vous nous avez fait. Merci beaucoup les filles. Et puis peut-être à bientôt sur les ondes de ces deux ailes. Vous reviendrez peut-être faire des choses de temps en temps, si le cœur vous en dit.
Bien sûr.
Voilà. Bonnes vacances en tout cas. Et puis, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale.
À quelle heure vous rendez-vous compte ? C'est pas une façon, essayez de vous rappeler de toute façon. Si vous croyez, réfléchissez un peu. On sera amené à se revoir. Vous devez bien avoir une idée. On vous a entendu dire oui, peut-être, plutôt non. Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Oui, peut-être, plutôt non. Je ne sais pas. J'ai pas fait attention. Allons, un petit effort. Votre banque nous informe. Elle nous assure de sa considération attentive. Constatant une fois de plus que nous sommes amenés, sauf erreur de notre part. Vous vous étiez engagé de vive voix. Oui, peut-être. Plutôt non. Je ne sais pas. J'ai pas fait attention. Oui, peut-être. Plutôt non. Je ne sais pas. Je jouais avec des phonèmes. Depuis quand ça durait? C'est Paris, pas cher, parc et moulure, cheminée découvert, cul à l'air, fallait bien que ça arrive. Combien tième mois? Elle nous a déclaré, vous lui aviez dit à l'oreille quelque chose. Oui, peut-être, plutôt non. Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Oui, peut-être. Plutôt non, je ne sais pas. Je jouais avec des phonèmes. We'll be right back.
sommes toujours entre Loire et Loin sur ces deux ailes. Et ça faisait un moment que nous n'avions pas eu d'invité dans notre canapé. Et il se trouve que sort un livre là qui a capté notre attention, Cordes sensibles. C'est écrit par Jean-Pierre Danel. Il raconte quoi ? Bah, sa vie. Mais pas n'importe quelle vie. Une vie de guitariste, une vie de producteur, une vie d'écrivain, de collectionneur, de touche-à-tout. Une vie de passion, au pluriel, évidemment. Et il est interrogé par Sandrine Manteau, bien sûr.
Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue ici à Entre Loire et Loin. Monsieur Weber, dites-moi, on a fait combien d'émissions depuis ses débuts en fanfare ? On ne sait plus. Mais en tout cas, on a décidé de finir la saison en beauté avec un invité de choix qui nous présente un livre. Hein. On aurait pu le faire venir sans aucune actualité. Parce que c'est un conteur exceptionnel, c'est un immense bavard, et puis il a plein de choses à raconter sur lui-même, et pourtant il sait être humble en même temps. Bref, c'est le suspense, vous le voyez à la caméra pourtant. Il s'agit de Jean-Pierre Danel. Alors je fais ça parce que moi je l'ai dans les mains, mais je sais que vous l'avez derrière là-bas. Son bouquin s'appelle « Cordes sensibles ». C'est vrai que c'est un monsieur sensible en fait, Jean-Pierre Danel. Et Jean-Pierre, merci beaucoup d'être là.
Ben merci à toi.
Un guitariste au pays du show business, c'est ça. Alors moi, je le caresse le bouquin parce que c'est un bel objet, c'est un gros objet, mais c'est un.
C'est pour caler les meubles.
Alors voilà, ça c'est l'illustration de l'humilité de Jean-Pierre. À chaque fois qu'on lui fait un compliment, il va faire une petite pirouette. C'est pour caler les meubles. Il en est hors de question. Bon, j'ai mis un petit peu de coups de crayon parce que moi c'est mon habitude, mais tu m'en voudras pas, Jean-Pierre.
Du tout.
Voilà. Alors, ce monsieur qu'on invite aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, comme c'est la dernière, moi j'ai comme l'impression qu'on va être en roue libre. Hein. Alors déjà, on va vous donner envie absolument d'acheter ce livre extraordinaire, ce livre qui nous parle du parcours tout d'abord d'un immense guitariste. Et puis également d'un poids lourd de la production.
Un très gros, énorme.
Oui, tout ça parce qu'il passe son temps à dire qu'on a pris des kilos tous les deux pendant le confinement.
C'est le confinement.
C'est un peu vrai, oui. Les cinquantenaires, ils sont comme ça. Hein.
C'est ça. Bon.
Mais alors, au-delà de ça, un poids lourd de la production.
Hein, poids lourd, je ne sais
disque,
pas. Enfin,
quand même. Tout en restant indépendant à l'heure qu'il est.
Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai.
C'est
oui, mais c'est pas mal d'être indépendant. Puis de toute façon, c'est devenu un petit peu. Le réflexe, c'est-à-dire les maisons de disques ne produisent plus elles-mêmes les disques comme à une époque. Mais moi, je suis arrivé à un moment donné où c'était un choix plus qu'un usage, on va dire.
Ah ben ça y est, il est parti. Mais moi, je voudrais dire une chose avant tout. Parce que j'ai trouvé des qualificatifs dans différents bouquins, d'ailleurs, qui m'intriguent quand même. Parce que ça, on pourrait dire Jean-Pierre Danel, le paradoxe. Ou Jean-Pierre Danel, l'énigme. J'ai trouvé ça aussi, hein. Je ne l'invente pas. Hein. J'ai trouvé aussi un Jean-Pierre Danel, le mystère.
Oh là là. Là.
Et puis, ça c'est très beau, un Jean-Pierre Danel, l'alchimiste. Et ça c'est Michel de Souza, qui est le DG de Warner Music, qui dit ça, parce qu'il dit que tout ce que tu touches, le plomb avec toi se transforme en or.
Il est très gentil et très optimiste, hein, quand même.
À mon avis, tu as pu lui en faire gagner un petit peu aussi d'or au passage.
À une époque, oui, un petit peu. Oui.
Voilà, c'est ça. Alors, Jean-Pierre, en quelques mots, en quelques. Ah bah tiens, deux chiffres. 200 disques d'or, tout mélangé. C'est-à-dire que tes propres albums à toi.
Ah oui, c'est
et
pas
tous
que
ceux
mes
que tu as produits, hein, tu le dis toujours. Hein.
Oui, bien sûr, c'est pas que mes disques de guitariste, c'est mon travail de producteur, dans lequel il y a mes disques de guitariste, parce que je les produis aussi. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses.
Non, c'est pas vrai, d'ailleurs, tu es très précis et tu m'as dit 202, s'il te plaît.
Oui, c'est le chiffre exact. Absolument. Non, mais il convient d'être un petit peu rigoureux. Non,
c'est vrai. Pas... Et puis, il y a des disques de platine et puis des disques de diamant.
Oui, enfin, ils sont dans l'eau, c'est 202, tout confondu. Ouais.
Et puis, il y a un autre chiffre incroyable, il y a 25 millions d'albums.
Non.
Ah non, c'est vrai, c'est pas juste.
24,2.
Oui, c'est ça.
En 25, mais ça sera dans quelques... on ne sait pas.
Quelques jours, peut-être.
Oui, non, la vitesse où ça va maintenant, ça va mettre un moment encore, je pense, mais bon.
Bon, ça c'est pareil, sans tes albums à toi et tous les disques
bien
que tu as pu produire et vendre. On va...
En gros, mes disques de guitare en moyenne représentent 15 à 20% du catalogue global de ce que j'ai fait. Donc, tu vois, on est loin de ces chiffres-là. Après, les 20 millions, c'est tout ce que j'ai produit, tout confondu, les artistes, les compilations, les machins, etc.
Bon, alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui se passe si vous ne connaissez pas Jean-Pierre Danel.
Alors.
Parce que vous dites, mais c'est quoi cet ovni, ce monsieur-là Alors d'abord, si vous ne le connaissez pas, c'est pas bien, il est temps que vous regardiez l'émission jusqu'au bout. Et quel est ce guitariste en or, donc, que vous ne connaissez pas et qui a joué avec les plus grands et qui est l'ami des plus grands. Bon, voilà, on donne quelques noms. Donc, il y a les Shadows, tout d'abord, évidemment. Oui. Ça, c'est ton ADN.
C'est ce qui m'a fait découvrir la guitare, ouais, quand j'étais enfant. Donc, après, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai enregistré un certain nombre de duos avec Hank Marvin, qui est le soliste des Shadows, et qui est l'espèce de point de départ de la guitare électrique en Europe, en tout cas. Et c'est vraiment, il est vu par tous les guitaristes qui ont suivi, je sais pas, Pink Floyd, Queen, etc. Le voit un peu comme on voit Pelé pour le football ou Fangio pour la Formule 1.
Oui, c'est bien quand tu dis ça.
Ouais, ouais. C'est ça.
C'est formidable.
C'est le gars par qui tout a démarré et tous les autres, les Dire Straits, etc., se réclament tous de ça.
Et puis il y a eu dernièrement la Queen Mania. Et puis, donc, si je dis que tu es un grand copain de Brian May...
Oui, on a fait plusieurs trucs ensemble aussi. C'est un homme adorable. Et on a fait des choses caritatives à Londres, ensemble. Et ouais, c'est émouvant. Il a eu des commentaires très gentils sur mes disques et tout ça. Il a fait des vidéos, il parle de moi. Enfin, c'est très, très émouvant. Et on est très proches, on parle... peut-être plus d'autres choses que de guitare. On est végétariens tous les deux parce qu'on est des animaux. On parle de ça beaucoup. On parle d'anecdotes rigolotes, de plein de choses. Mais pas tant que ça de Queen. Un petit peu, mais bon. Et puis, je vais le voir en concert. Alors, il m'appelle, il me dit, attends, je vais faire un solo pour toi ce soir. Écoute bien telle note, tu verras, c'est rigolo. Enfin, bon, c'est
voilà, c'est oui, alors, j'ajouterais quand même que je crois que dans certaines interviews, Brian May disait que quand il écoute certains de tes morceaux, il continue à apprendre des choses en t'écoutant jouer.
Il est très bien élevé, ce garçon. Il est très bien élevé. Non, mais en fait, le truc, si tu veux, je pense qu'il le dit sincèrement et en même temps, les gens prennent ça comme un truc incroyable et ça l'est pas parce que quand on est musicien, quel que soit l'instrument qu'on joue, on peut trouver une astuce quelque part dans n'importe quoi. Quel que soit, je dirais même, le niveau du musicien en question, il y a toujours un truc à choper. Moi, je me rappelle une fois avoir écouté un truc merveilleux qui est In the Mood de Glenn Miller. Et il y a un solo de saxophone. Et je me suis dit, oh là là, il est magnifique ce solo. Jouer à la guitare, ça, ce serait un truc formidable, en fait. Et donc, on a des astuces. Et je ne suis pas étonné que tel ou tel guitariste puisse entendre tel autre et dire, ah, ça, c'est, j'aurais pas pensé à ça. Même si le gars est 10 fois moins bon que lui, c'est même pas le problème. Donc, quand Brian dit ça, c'est très gentil. Et les gens prennent ça pour une marque de grandeur. Mais en fait, non, c'est anecdotique, mais c'est gentil qu'ils le disent.
Bon, écoute... Ce bouquin, tu le dis assez souvent, hein, t'es comme moi, ça passe un peu mal. T'as 50 ans, il était temps que tu le fasses. Et ta carrière, elle a commencé quand même quand t'avais 14 ans.
Oui.
Et
oui. Ça va faire 40 ans l'année prochaine. Ouais. Arrêtez.
Contrairement à beaucoup d'artistes, Jean-Pierre, il l'a écrit tout seul, avec ses petits doigts, parce qu'en fait, Jean-Pierre, il sait faire beaucoup, beaucoup de choses, et entre autres, écrire des livres. Et tu en as écrit plus d'un des livres avant celui-ci.
Une quinzaine, je crois, par là, oui.
Ah ouais, comme ça, une quinzaine. Ouais. Alors, il y a eu des bouquins sur Sacha Guitry, qui n'est pas très rock'n'roll.
Si,
il est rock'n'roll.
Très rock'n'roll. Quand tu vois ce qu'il a inventé, il avait 60 ans d'avance sur son époque, Sacha Guitry. Quand tu vois la manière dont il met en scène les femmes à son époque, à l'époque de Guitry, les femmes, elles sont dans la bourgeoisie qu'il décrit en tout cas, parce que les femmes moins, dans les positions sociales moins élevées travaillaient beaucoup. Mais dans les milieux que Guitry connaît et qu'il décrit dans ses pièces et dans ses films après, c'est la bourgeoisie et ces femmes-là ne travaillent pas à l'époque et elles ne font rien sans l'autorisation de leur mari. Et lui met en scène des femmes qui travaillent, qui sont autonome, indépendante financièrement, qui fume, qui voyage, qui porte des pantalons. À l'époque, il fallait l'autorisation du mari pour porter un pantalon. Mmh. Qui trompent leur mari, qui ont des amants partout, etc. Et la façon dont il les met en scène à l'époque, dans une pièce qui s'appelle Faisons un rêve en 1916, le deuxième acte, c'est le rôle principal, c'est une femme mariée qui est au lit en chemise de nuit avec son amant. La pièce a failli être interdite à cause de ça. En fait, on s'aperçoit que la femme qu'il décrit dans cette pièce-là, c'est la femme des années 70 en France.
Ah oui.
Il a 60 ans d'avance. Oui. Donc il est très rock'n'roll, Guitry.
Il est très rock'n'roll et au bout du compte, tu le trouves assez féministe au bout du compte.
Je ne sais pas si c'est féministe, en tout cas c'est un amoureux des femmes, c'est tout sauf un misogyne, parce qu'on retient les citations, parce qu'on retient ce qu'il fait dire à ses personnages aussi.
Oui.
Mais en fait, toute sa vie tourne autour des femmes, il adore les femmes. Il s'en venge un peu de temps en temps, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul. Mais les phrases les plus misogynes qu'on connaît de lui sont les phrases qu'il met dans la bouche de ses personnages.
Bon, des bouquins, un bouquin sur Sarah Bernhardt, un bouquin sur Elvis Presley, on en parlait tout à l'heure.
Sarah Bernhardt, il n'est pas fini encore.
Comment ça, il n'est pas fini?
Ben oui, parce que je dors un peu des fois, je ne sais pas pourquoi.
Et puis des bouquins sur des considérations justement sur les femmes, parce que toi, tu es féministe.
Ben, tu sais, je ne sais pas si je suis féministe, enfin, il me semble que c'est un peu naturel de l'être, au sens où, normalement, il ne doit pas y avoir de débat de cet ordre.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est juste ça. Mmh. Et moi, j'ai la chance, j'ai une petite fille qui a 8 ans, et je suis très heureux que par son ascendance, par sa maman, par sa grand-mère, etc., elle n'ait pas à imaginer que dans sa vie, être une femme puisse être une contrainte quelconque. Ma femme, elle est chirurgien. Ma maman, que tu as gentiment reçue, a travaillé à l'Élysée. Ma grand-mère était une comédienne de théâtre renommée. Donc, Philippine, elle peut voir dans son ascendance qu'être une femme, ça permet d'aller où on veut et au plus haut de tout. Et ça, je pense que c'est bien. Donc, en ce sens-là, je suis féministe, mais ça me paraît juste la nature des choses, en fait.
Alors, tu viens de parler de ta maman. Donc, Margit, bonjour. Et franchement, j'avais eu énormément de plaisir à lire votre livre. Et bah voilà, vous avez un fiston évidemment qui tient la route. Hein. On voit qu'il y a une maman derrière qui lui a appris plein de choses. Moi, j'aimerais lire le tout début du livre pour vous donner envie, parce que c'est savoureux. Je me présente brièvement. Je joue de la guitare. Ça se voit sur la couverture. Je vous raconterai ça. J'adore ça. Pas le raconter, jouer. C'est un joli métier qui a tendance à surprendre parfois, un peu. Et puis aussi, je produis des disques. C'est aussi un métier qui a tendance à être un peu moins surprenant parce que le mot producteur a un charme plus discutable. Voilà. Alors, tu dis aussi que tu as eu un métier génial, avec des paillettes dedans, de la créativité, des voitures qui font vroom, des maisons de la taille d'un supermarché, d'ailleurs qui s'est effondré au bout du compte.
Il y en a une, oui, c'est vrai.
Et d'ailleurs, tout le plaisir, mais aussi le stress et les emmerdes qui vont avec. Un bon niveau d'ensemble. Alors là, on pourrait croire que cela ne parle que de moi, et en fait, oui, c'est bien ça, mais avec des vrais morceaux de gens dedans, comme dans les yaourts. Moi, ça, je trouve que c'est de l'or.
j'ai écrit ça, comment dire, un peu comme ça me venait. L'idée, c'est que j'ai voulu raconter un peu pour ma fille, un peu tout ça. Alors, j'ai parlé, tu vois, d'une façon relaxe, où on va pas se prendre la tête, c'est pas non plus.
Comme tu es.
Voilà.
Hein, comme voilà. Tu es. Alors tu dis pour ta fille, ta Philippine, ton amour, tu dis souvent que ton premier métier, c'est d'être papa.
Ah oui, ça, c'est sûr que.
C'est ça.
En termes d'emploi du temps, d'énergie, d'implication, c'est mon premier métier, oui. Bah, comme beaucoup de parents quand même. Hein. Quand bien sûr, les gens travaillent, etc. Mais je veux dire, on se rend bien compte quand même que la place des enfants dans une vie, c'est quand même prépondérant.
Bon, c'est bien. Alors. Raconte-moi, on dit, pourquoi est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure le paradoxe, on disait. Le paradoxe Jean-Pierre Danel. Parce que tout semble très simple, en fait, dans ta vie. Et en même temps, rien ne semble simple. Parce qu'on le disait tout à l'heure, t'es un garagiste. Alors, ça non, tu vois, en l'occurrence, ça non.
L'année prochaine, j'ouvre un garage l'année prochaine. J'ai une charcuterie pour l'instant.
Tu es un guitariste. Tu es un guitariste extraordinaire. Et en même temps, tu dis que dès le début de ta carrière, tu as eu beaucoup de mal à rencontrer les producteurs.
En fait, le truc, je ne sais pas si c'est un paradoxe, je ne sais plus qui avait écrit ça, mais je sais pas faux, c'est juste qu'en fait, moi, ce que j'ai eu tendance à avoir envie de faire, toujours, allait généralement contre les attentes ou les projets des maisons de disques par lesquelles on est obligé de passer, ou en tout cas on l'était un poil moins maintenant, mais c'est quand même assez discutable. Et donc, moi j'arrivais, quand j'étais môme, quand tu disais quand j'ai démarré j'avais 14 ans, j'arrivais avec des disques de guitare instrumentale. D'ailleurs, pour se faire tirer dessus, on fait difficilement mieux. Enfin, à l'époque, c'était des synthés partout. Les trucs des guitares instrumentales, personne ne savait ce que c'était. Le dernier truc qui avait marché, il avait 20 ans. Donc, on m'a dit très clairement, et je pense d'ailleurs assez légitimement, on m'a dit, Jean-Pierre, s'il y a une chose dont tu es certain que tu ne vendras jamais le moindre exemplaire, c'est la guitare instrumentale. C'est même pas la peine d'y penser.
Mais voilà. Tu l'as entendu toute ta vie, ça.
Mais je l'entends encore.
Encore, tu
l'entends
encore.
C'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai eu la chance de faire quelques disques qui ont eu des résultats sympathiques, et après ça, on repart à zéro quand même. La maison
toujours.
De disques te dit toujours, ah ouais, celui-là, il a cartonné, mais... Le prochain, tu sais, les choses, le marché a changé. Tu dis, depuis 6 mois, là. Oui, tu sais, ça va très vite. Et parce que c'est une chose que les maisons de disques ont eu du mal à appréhender. Donc, ils sont en terre inconnue à chaque fois. Et donc, quand je leur propose quelque chose, ben, ça leur parle pas beaucoup. Alors, on a fait la preuve quelques fois. Alors, ça rassure un peu, mais quand même, ils sont toujours très dubitatifs. Et donc, j'ai toujours, dans tout ce que j'ai fait, mais même pas que pour mes disques à moi, pour d'autres prods, j'ai passé ma vie à déplacer les montagnes comme ça tout le temps. Parce que c'est des montagnes. Quand tu vas voir Sony Universal et que tu leur demandes d'investir sur un album, alors que tu produis toi, parce que sinon c'est même pas la peine d'en parler, mais bon, de faire une pub télé, de faire de la promo, etc., ça leur coûte de l'argent, ça leur prend du temps. Et ce qui t'explique, de façon assez compréhensible, je peux entendre ça. Ils me disent, écoute Jean-Pierre, moi le temps et le budget que je vais mettre sur toi, avec ce même temps, ce même budget sur Maître Gims, je vais vendre 4 fois plus. Ou 5 fois plus, ou 12 fois plus, ou ce qu'on voudra. Donc, à choisir, voilà. Et je peux entendre ça. Hein.
Mais c'est pas vrai, ça, ce que tu dis.
C'est pas toujours vrai.
C'est pas toujours vrai,
mais
parce que
la réaction s'entend.
Bien sûr. Tu m'avais donné, justement, l'exemple d'un disque où tu avais complètement cartonné et t'étais face à des... à deux gros Madonna ou quelque chose comme ça, et toi t'es arrivé avec ton instrumental et t'es passé devant eux largement.
Ouais, bon, les tops des ventes ils changent chaque semaine,
oui.
Donc tu peux toujours passer devant l'un ou l'autre, après c'est le résultat global qui se mesure. Mais c'est vrai que j'avais un disque qui s'appelait Guitar Connection qui était numéro 1 du top 50,
oui.
Il y a une quinzaine d'années, on n'attendait pas ça du tout, c'est-à-dire que pour faire court, Il y a un top des ventes qui est le top 200, des 200 albums les plus vendus. Et Sony, que j'avais convaincu finalement de sortir ce disque avec une campagne de pub télé, après qu'ils aient annulé le projet 4 fois, enfin c'est toute une histoire, vraiment ils ne voulaient pas. Ils m'ont dit, tu sais, bon, ils faisaient... disons que j'aurais forcé la main parce que je produisais aussi beaucoup de choses chez eux. Et ils m'ont dit, écoute, tu seras quand même le seul disque en pub télé qui ne va pas rentrer au top 200. Parce qu'on ne peut pas vendre de ça. Et on était numéro 1 pendant 2 semaines et numéro 2, bref, on est resté 6 mois dans le top. Et c'est vrai qu'ils sont tombés de leur chaise. J'avoue que moi aussi, parce que je pensais avoir un résultat, mais peut-être pas celui-là. Et c'est vrai que les autres maisons 10 m'appelaient en me disant « Mais qu'est-ce que tu fous numéro 1 du top 50 ?» Et avec de la guitare instrumentale, ils ne comprenaient pas du tout que ce soit possible. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la pub télé permettait, à défaut que ce disque passe à la radio, qui ne diffuse pas de la guitare instrumentale, les gens qui aiment ça, en voyant la pub... ont su que le disque existait, ils ont donc été l'acheter. Et le truc, c'est qu'ils sont moins nombreux que les fans de Madonna, comme tu disais, ou de qui tu voudras. Ils sont moins nombreux, mais comme on leur donne jamais rien, un disque tous les 20 ans, quand il y en a un, ils vont tous l'acheter. Et donc, du coup, on fait des gros scores. Mais ça, c'est une démarche dont les maisons de disques n'ont pas beaucoup l'habitude. Elles ont l'habitude de la promo et de tout regrouper. On a de la promo, on a de la pub, on a de ce qu'on appelle de l'airplay, c'est-à-dire des passages radio. Et quand on n'a pas ça, ils se disent, mais comment on va faire ?
Bonjour, je suis Maître Lemoine de la Chambre des notaires du Loiret. J'ai le plaisir de vous retrouver chaque jour dans la chronique du notaire sur C2L Radio. Je réponds à toutes les questions qui sont transmises à l'adresse de la radio contact@c2l-radio.fr. À très bientôt sur C2L.
C2L illumine votre été. La musique, le soleil et C2L.
C2L 89.3.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin sur C2L, Cordes sensibles. C'est écrit par Jean-Pierre Danel. Il raconte quoi ? Sa vie. Mais pas n'importe quelle vie. Une vie de guitariste, une vie de producteur, une vie d'écrivain, de collectionneur, de touche-à-tout. Une vie de passion, au pluriel. Il est interrogé par Sandrine Manteau, bien sûr.
Donc on en parlait tout à l'heure, tu as été quand même un des premiers à passer par la pub télé pour faire connaître tes albums.
Alors, je n'étais pas le premier, mais c'est vrai que c'était une époque où ça démarrait. Moi, quand j'ai monté ma boîte de prod, c'était en 89, la pub télé avait démarré 2 ans et demi avant, donc c'était encore assez nouveau. J'étais le premier à en faire pour des disques de guitare, ça c'est sûr. C'était un outil qui était, encore une fois, ça compensait le manque de diffusion à la radio, mais avec un risque financier important, ce qui faisait qu'évidemment, on avait quelques stress, quelques sueurs froides, que ça coûte cher. Hein. On parle de 300, 500, 800, 800 000 euros, 1 million d'euros, enfin, c'est des grosses sommes. Et, oui, on a eu quelques sueurs froides quand même sur certains disques. Il y a eu des disques, j'ai le souvenir d'un album que j'avais produit chez Sony, qui s'appelait Plus de peur, qui était une espèce de best-of des musiques de films d'angoisse.
Ah oui.
Et j'arrive chez Sony, j'en dis voilà, j'ai cette idée-là. J'avais eu l'idée parce qu'il y avait sur M6 tous les jeudis, il y avait une émission qui s'appelait Les Jeudis de l'angoisse, qui passait des films d'horreur que je ne regardais jamais parce que je déteste ça. Mais en bon producteur opportuniste, j'ai dit ça, c'est une bonne idée. Et donc j'ai proposé ça à Sony. Je dis voilà, on va faire ce truc-là. Et je leur ai dit, on va faire un spot de pub avec du sang qui coule sur l'écran. Et en disant aux gens, n'écoutez surtout pas ce disque. Ils m'ont dit, mais si tu dis ça, ils vont pas l'écouter, ils vont pas l'acheter. Et non, justement, comme tout ce qui est interdit, on sait ça quand on a des enfants, quand on dit surtout ne touche pas à ça, le premier réflexe des gens, c'est d'y aller direct, généralement. Enfin, en tout cas, pour une partie d'entre eux. Et donc, on a fait ce disque, ils n'en voulaient pas. Et grâce à la pub télé, le marketing et le slogan en question ayant joué, on a fini disque d'or avec un truc qui était... Tu vois, c'est pas que la guitare. Il y a d'autres exemples de choses auxquelles ils ne croient pas. Et puis finalement, on y arrive. Et puis parfois, on n'y arrive pas, évidemment.
Alors, vous devez vous demander... alors, c'est un guitariste, ce Jean-Pierre Danel, ou c'est un producteur? Mais c'est compliqué.
Les deux,
parce
madame.
Qu'en fait, voilà, les deux. En fait, Jean-Pierre, il n'a jamais voulu rien faire dans les normes, de toute façon. Et puis, t'en as toujours fait qu'à ta tête.
Hein,
il y en a certains qui t'ont dit, quand même, t'aurais un petit peu plus travaillé la guitare, t'aurais fait une carrière à la gna.
Non, c'est pas
toi,
ça.
T'es pas content quand
c'était,
on te dit ça.
C'était pas ça. C'était que, au début, quand j'ai démarré, comme on me disait que je pouvais pas faire de disque, on m'expliquait que j'aurais pu accompagner des artistes davantage. Et comme je ne connais pas le solfège, évidemment, je pouvais pas arriver au pied levé pour remplacer le guitariste de Charles Aznavour avec une partition, puisque je peux pas la lire. Et donc, on me dit en ce sens-là, tu vois, t'aurais appris le solfège, t'aurais pu faire des choses. Mais comme j'ai fait des disques de guitare, avec moi comme artiste, l'avantage c'est que je jouais ce que je voulais, donc je n'avais pas besoin des partitions. Donc j'ai fait comme ça. Mais oui, j'ai toujours eu une mentalité un peu indépendante. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Mais c'est vrai que le parcours était un peu, comment dire, inattendu par rapport à la norme de ce qui se passe avec les maisons de disques.
Bon, alors, raconte un jour, donc, tu as un petit peu du mal à vivre au début avec ta guitare.
Ah bah oui, quand j'étais adolescent. Ouais.
Donc, alors, il faut que... Alors, dis déjà, première chose, c'est papa qui t'encourage quand même.
Oui, en fait, c'est un tout. Ce qui s'est passé, c'est que...
Pascal Danel.
Voilà, mon papa. En fait, ce qui s'est passé, j'ai découvert la guitare quand j'avais 10 ans en écoutant un disque des Shadows. Et donc, bon, j'ai appris petit à petit. Puis à 14 ans, j'ai fait ma première tournée professionnelle, 2 mois et des poussières. Et c'est vrai que l'avantage que j'ai eu, c'est qu'ayant un papa dans la profession, il m'aidait pas pour apprendre la guitare, mais par contre, je savais que j'étais pas, comment dire, en train d'essayer de faire quelque chose qui horrifierait mes parents. C'est-à-dire que je pense que quand un enfant grandit dans une famille où aucun artiste, l'idée que l'enfant soit artiste peut-être peut faire peur, et je peux comprendre ça très bien. mes parents, c'était pas vraiment le problème. Après, ils avaient envie que je me donne les moyens de le faire bien pour éventuellement y arriver. Mais bon, c'était pas un scandale en soi. Donc ça, c'était un soutien important. Puis ils m'ont offert ma première guitare. Enfin, non, j'étais môme. Hein. Donc ça, c'était bien. Et puis après, j'ai accompagné mon père. Et puis plus tard, j'ai même produit des disques. Donc on a fait plein de choses ensemble. C'était sympa. Mais j'ai démarré sans lui, mais sous son regard bienveillant.
Bienveillant, de toute façon, très bienveillant, tes parents avec toi,
oui,
d'un bout à l'autre.
Hein? Ah oui, ça c'est toujours bien.
Mais alors donc, à un moment donné, il faut faire rentrer de l'argent, et c'est comme ça que tu as l'idée de devenir producteur.
En fait, ce qui s'est passé, c'est arrivé un peu par accident. Donc moi, je jouais de la guitare, je faisais quelques séances de studio, celles où on pouvait se permettre de venir jouer sans connaître le solfège. Je travaillais beaucoup avec les musiciens de Michel Berger, et quand il y avait un truc où il y avait un solo de guitare, où il n'y avait pas une partition écrite, où on disait, le mec, il va nous faire un truc très bien, là je pouvais y aller. Mais donc c'était pas tout le temps non plus. Et j'habitais encore chez mes parents, mais je voulais acheter un peu de matériel pour pouvoir enregistrer, faire des choses, etc. Donc il me fallait un peu de sous. Et puis de fil en aiguille, après les séances de guitare, j'ai fini par faire des arrangements et à faire des musiques pour des publicités notamment. Donc ça m'a fait gagner un petit peu de sous. Et il y a un comptable qui m'a dit, il faut que tu fasses une société parce que sinon ça va être une galère.
C'est devenu
au niveau
puzzle.
Administratif. Et j'ai monté ma boîte, donc j'avais 20 ans. Et puis je l'ai toujours du coup.
Oui.
Voilà.
Voilà. Et alors, raconte-nous, tu à l'heure actuelle, tu as un catalogue, comme on dit, d'artistes impressionnants.
Bah, c'est le plus gros catalogue musical indépendant en France, oui. Donc il y a un peu plus de 18 000 chansons. Il y a quelques centaines d'artistes qui sont là-dedans. En fait, il y a deux choses.
Alors, les artistes.
Parce qu'il y a les choses que j'enregistre moi, et il y a des chansons dont j'ai acquis les droits pour la France, pour l'Europe ou pour le monde. Soit je les ai achetées, soit éventuellement je les représente pour ceux qui les possèdent, notamment aux États-Unis.
Alors moi, j'ai noté, parce que tu dois plus t'en souvenir. Mais si, je sais, c'est pas vrai. Ils se souviennent tous, ce mec. D'ailleurs, là-dedans, il y a des... Mais c'est précis, tous les gens qu'il rencontre au fil du temps. Je ne sais pas comment il fait pour se souvenir de tout. Alors, il nous pipote, mais on ne le saura jamais. Alors, rachat de droits, musique classique. T'as racheté Boulez, t'as racheté Stockhausen et t'as racheté Maria Callas.
Une partie. Mais j'ai des titres de ces gens-là. Oui, mais ça, c'est une question de pur business, on va dire.
D'accord.
Il y a des catalogues de ces enregistrements qui existent. Et qui
t'as du Mozart aussi, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Il y a des choses qui n'étaient pas exploitées en France ou pas exploitées en Europe. Donc j'ai été voir ce qu'on appelle les ayants droit, les propriétaires de ces catalogues. Je leur ai dit, mais c'est dommage que vous ne vendiez pas ces disques-là en France, en Europe. Si vous voulez, je m'en charge. Et donc, soit j'ai acheté une licence, comme quand on achète un par exemple, Mickey de chez Disney pour faire des t-shirts, soit j'ai carrément acheté les droits pour la France ou pour l'Europe. Et petit à petit, j'ai monté comme ça des collections qui sont ajoutées à ce que moi, j'enregistrais en studio en tant que producteur pour d'autres artistes et que je réalisais moi pour le coup.
Alors voilà, t'as fait Andjaz, t'as Miles Davis. Musique, t'as Frank Sinatra aussi d'ailleurs.
Il y a beaucoup de choses. Alors là, tu parles de choses assez anciennes, mais il y a des choses plus récentes.
Ah ben oui, parce que
il y a Nina Simone, il y en a beaucoup.
T'as eu aussi du flair et t'as produit par exemple Eli Kaku à l'époque. T'as fait Hit Machine, t'as fait Bouddha Bar.
Oui.
T'as fait des remixes aussi qui ont très bien marché.
Oui.
T'as vu, j'ai bien travaillé.
Oui, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à une époque, par exemple, je travaillais beaucoup avec M6 à un moment. Donc, je m'occupais de certains Hit Machine, pas tous, et des M6 Awards aussi. Et puis d'artistes qui étaient sur les labels d'M6. Alors, ça nous amenait à faire d'autres choses, des compilations, des choses comme ça. Et de fil en aiguille, à force de faire des compilations, on a monté des partenariats avec certaines radios. Et à un moment donné, on a monté un partenariat avec Skyrock. Et Skyrock avait envie d'avoir des versions un peu spécifiques pour son antenne de certains morceaux qui étaient très grand public. Eux, ils voulaient des versions plus pointues. Donc, on a négocié l'autorisation avec les maisons de disques des artistes en question. Et ils nous ont envoyé les masters et on a concocté des remixes pour Skyrock que eux ont validé. Voilà. Donc,
Mais d'ailleurs, tu as été. C'est ça, tu as eu l'idée aussi de rejouer certaines musiques existantes.
Ça, c'était
rappelle-moi.
Ça, c'est un cas bien particulier, c'était pour les musiques de films.
Mais c'est génial. Tu as gagné un max de pognon.
Ah oui.
Je l'ai lu là-dedans, c'est pour ça que je dis ça.
En fait, ce qui se passait à cette époque-là, ça a changé depuis. Heureusement pour moi, à l'époque, c'était comme ça. C'était une époque où arrivait le centenaire de l'invention du cinéma par les frères Lumière.
Ah oui, c'est ça.
1995. Et à cette époque-là, les studios de cinéma, qui sont propriétaires des droits des films et de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire de la musique qui y est rattachée, ne donnaient pas d'autorisation aux maisons de disques d'utiliser des musiques de films de façon unitaire, c'est-à-dire de faire une compile où il y aurait à la fois La Guerre des Étoiles, et puis E.T., et puis je sais pas quel autre film. C'était soit on achetait la bande originale complète du film, soit rien. Et donc, on avait une impossibilité, clairement, de monter des compilations à l'occasion des 100 ans du cinéma, dans lesquelles il y aurait eu tous les grands standards de musique de film que les gens aiment, et on aurait pu avoir, je sais pas, La Panthère Rose, Star Wars, et puis un western, et puis un James Bond, et puis tout ça. Et comme c'était pas possible, je me suis dit, ben c'est pas grave, on va réenregistrer ce thème-là, on va bien soigner ça, que ce soit de qualité, hein, c'est pas la question, mais ça va permettre de réunir tous ces titres-là sur un même disque, chose à laquelle nos amis les maisons disques n'avaient pas pensé. Et donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai produit un certain nombre de disques, en fait j'en ai fait un qui a très bien fonctionné, donc du coup dans la foulée ils ont fait des petits, et donc j'ai enregistré un gros catalogue comme ça de musique de film, 240 titres je crois, et on a fait des disques dans tous les sens, ça continue d'ailleurs, mais à l'époque là on en a fait beaucoup, et oui on en a vendu quelques centaines de disques.
Alors, il faut dire une chose, c'est que tu es le papa du disque à prix cassé.
Oui.
Ce que tu appelles le CD malin. Raconte-nous. Alors, l'histoire.
Ça a été compliqué, cette affaire-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est au milieu des années 90, je fais un album de guitare en Angleterre. Pour une raison simple, c'est qu'en France, personne n'en veut de mes disques de guitare. Donc, comme ils n'en veulent pas en France, j'essaie de les placer ailleurs. Donc, j'en sors au Japon, aux Pays-Bas, enfin bref.
Ah oui, et dire quand même que monsieur, il est évidemment les disques, tes disques de Jean-Pierre Danel, de guitariste, on les trouve partout dans le monde. Mmh. Tout le monde te connaît.
Les
Allez
gens, les gens qui aiment la guitare.
Ben voilà, encore voilà. Une fois, non, hein, bien sûr, c'est précis.
Et donc, je fais cet album en Angleterre, on est disque d'or en Angleterre, et je regarde un peu ce qui se passe, et je comprends assez vite qu'en Angleterre, ils ont un culot qu'on n'a pas en France, qui est que, à l'époque, un disque, un CD, à l'époque, ça se vend autour de 140 francs, parfois 120, mais c'est souvent 140.
Et
on a oublié. Et le prix le plus réduit qui existe, c'est une collection spéciale chez Sony Music, qui sont des enregistrements de plus de 10 ans, à minima ils ont 10 ans et parfois plus, et ils sont vendus 89 francs. C'est ce qu'ils appellent, une collection s'appelle Nice Price. Oui. Et en dessous de ça, il n'y a rien, sauf des disques qu'on trouve sur les marchés à la sauvette, bon, mais les disques normaux, il n'y a pas en dessous de ça. Et je vais voir Sony et je leur dis, écoutez, je viens de faire mon album en Angleterre, on en a fait 130 000 en 2 mois, mais on le vendait 40 balles. Je pense que si vous ne réagissez pas, vous allez avoir un de ces quatre, un gros label indépendant qui va débarquer peut-être d'Asie, comme ils font souvent. Ils vont aller voir Auchan, Carrefour, Leclerc, ils vont leur dire « Nous, on vend les 10 trois fois moins cher. » Et vous allez vraiment perdre une part de marché monstrueuse. Et ils m'ont traîné dans la boue en me disant « Mais nous ne sommes pas des marchands de tapis. » Nous ne bradons pas nos artistes, tu vas casser le marché du disque si tu fais ça, tu es totalement inconscient. Bon, et je leur ai dit, écoutez, si vous ne le faites pas avec vos artistes, faites-le avec les miens. Alors, bon, ça, déjà, ça les choquait moins, mais il y avait un problème purement technique et logistique, c'était qu'il fallait créer un code prix spécifique pour des disques de cet ordre de prix-là, qu'on a fixé à 39 francs à l'époque. Ce qui est devenu la norme, c'est-à-dire c'est plus ou moins, je crois, 6 euros aujourd'hui, c'est quand on va acheter un disque il y a plus d'un an ou deux, c'est le prix qu'on le paye aujourd'hui.
Avec les petits autocollants qu'on voilà. a dessus.
Et donc, ils ont mis 6 mois à monter un code prix spécifique parce qu'il ne fallait pas les bousculer trop quand même. Et au bout de 6 mois, ils m'ont dit, bon, allez, vas-y, fais mumuse avec ton catalogue. Vraiment très méprisant. Ils m'avaient dit, de toute façon, on ne peut pas se permettre de vendre des disques à ce prix-là d'une façon normale. Donc, ce sera juste 2 fois 1 mois dans l'année, une opération spéciale où on dira aux gens, exceptionnellement pendant un mois, vous avez, alors il y avait, je sais pas, James Brown ou Stoney Charden, pour prendre des choses très différentes, pendant un mois, vous y avez avec ça à 39 francs, mais après c'est fini. Et puis ça revenait 6 mois plus tard. Bon, et donc on a signé, du coup j'en ai profité, comme j'avais la main dessus pour faire une collection assez importante, j'ai signé pour 138 albums, ce qui n'était pas rien, et on a sorti les 138 albums directement chez Sony, et ça a fait un carton monstrueux.
Et ça te fait glousser.
Ça me fait rire. Mais parce que c'est ce que je faisais tout à l'heure. Passer mon temps à déplacer des montagnes. Alors qu'on faisait des trucs, je me disais non, mais t'es complètement fou. Bon, tout on en a vendu 3 millions 2 ou 3 millions 4, je sais plus. Et là, ils m'ont dit, ah, on pourrait rajouter nos artistes Abba, Claude François, Joe Dassin, parce que c'est peut-être pas bête finalement. Et deux ans ou trois ans après, je ne sais plus, Warner m'a appelé pour faire la même chose chez eux, en me disant, on t'a bien reçu ce truc-là, est-ce que tu pourrais faire pareil chez nous? Alors, quand je dis pareil, c'est le même principe, mais pas les mêmes artistes, ça n'aurait pas été très correct. Et là, on a signé pour 261 albums, et rebelote. Et en fait, après, c'est devenu une norme sur le marché du disque qui n'existait pas jusque-là, effectivement. Mais c'est normal, on ne pouvait pas, quand on sait ce que coûte la fabrication d'un CD, on ne peut pas prendre les gens pour des imbéciles au point qu'au bout de 30 ans, on leur vend encore comme s'il était sorti de studio hier et qu'on a dépensé tout notre argent dessus. Ce n'est pas vrai. Et à un moment donné, il fallait arrêter de prendre les gens pour des imbéciles.
J'espère que ça vous passionne autant que moi, toutes ces histoires de production. Moi, j'en avais jamais eu vent auparavant. Et j'ai face à moi un producteur qui me raconte des anecdotes qu'on retrouve dans ce livre-là. Alors, il s'en défendra, il veut dire « Ah oui, mais c'est que la première partie du livre, après je parle d'autres trucs, etc. » Nous aussi, on va parler d'autres choses. Mais on va parler d'une dernière très jolie histoire de production. C'est celle qui, quelque part, j'espère que je résume bien, a sauvé les disques de ton père.
Ah, tu parles de la première compile, c'est
ça ? Eh ben oui.
Ah oui, ça aussi, c'est toute une histoire.
C'est génial, cette histoire.
Écoute, c'est un concours de circonstances. En fait, en 1989, papa est sélectionné par les votes des gens pour participer à une émission qui, à l'époque, est le carton du moment sur TF1 qui s'appelait Succès Fou. Succès Fou, c'était une liste de chansons proposées aux gens, genre 60 chansons, les gens en choisissaient 20 et elles étaient classées ensuite selon les votes du public. Papa participe une première fois avec sa chanson qui s'appelle Kilimanjaro et termine troisième derrière, si je me souviens bien, Joe Dassin et Daniel Balavoine.
Non. C'est pas Daniel Balavoine.
C'était pas Daniel Balavoine. C'était deux artistes décédés.
Dassin et puis je sais.
Ou Claude François peut-être. Oui, L'un des deux.
Oui, je crois.
Et bon, les artistes décédés avaient remporté les suffrages du public, ce qu'on peut tout à fait entendre. Et papa est troisième, ce qui est formidable parce que c'est que des très 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 gros tubes. Hein. Mmh. Et la fois d'après, il participait avec La Plage Romantique et là il est numéro un. Ouais. Et alors numéro un devant, je sais plus qui il y avait, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell, Johnny, enfin bref. Donc gros succès. Et il se trouve que moi, parallèlement, j'ai essayé de négocier mon disque à moi auprès de différentes maisons de disques et je tombe sur Alain Puglia qui était l'ancien producteur de mon papa et je vais le voir pour lui parler de mon disque qu'il adore et qu'on a fait plus tard. Et dans l'intervalle, je lui dis, écoute, c'est quand même dommage, papa vient de gagner Succès Fou, ce qui est un truc énorme, et on a dû pour le faire réenregistrer La Plage Romantique que j'ai produit moi, parce que le disque d'origine n'existe plus, parce que la maison de disque qui s'appelait AZ, qu'on connaît maintenant. qui est depuis remise sur les rails, mais qui à l'époque était en dépôt de bilan, ça n'existait plus. Et tous les enregistrements des artistes AZ, il y avait Michel, Paul Naref, il y avait Christophe, il y avait tout ça était à l'arrêt, tout ça était bloqué par les huissiers, on ne pouvait rien faire. Et je dis, Alain, c'est quand même dommage, c'est un carton énorme, et il n'y a pas un CD de mon père dans les bacs. Et
pour cause. C'est fou, hein.
Et Alain me dit, mais oui, mais dis-moi, je peux rien faire. Dis-moi, j'ai produit 3 albums pour ton père. Ils n'ont pas marché, ce qui était d'ailleurs très injuste, qu'ils étaient vraiment bien. Mais bon, ils n'avaient pas fonctionné. Et il me dit, moi, je n'ai pas les tubes qui permettraient de vendre du disque. Et j'ai perdu de l'argent sur les autres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis il me dit, en plus, partir sur une compilation, c'est de la pub télé, c'est une fortune, etc. Moi, j'avais 19-20 ans, je n'avais pas les moyens de mettre des centaines de milliers d'euros. Et j'ai dit, Alain, écoute, on peut faire une chose. Papa n'est plus sous contrat chez toi, mais il peut être sous contrat chez moi. Et j'ai dit, ce que je te propose, c'est que je réenregistre ces tubes, donc je t'amène les locomotives qui vont te permettre de vendre l'album, tu mets à côté de ça, en face B sur le vinyle et à côté sur le CD, des titres extraits des albums sur lesquels tu as perdu de l'argent, tu vas les rentabiliser avec ça.
Ah, c'est bien.
Tu payes la pub télé, du coup, en contrepartie du fait que je t'amène les titres qui vont te faire vendre, et on fait le disque. Et on l'a fait, et papa a eu un disque d'or avec ça. Moi aussi, comme producteur, mais c'est surtout papa. Ouais, c'était rigolo.
Non, mais alors ça c'est vraiment une belle histoire. J'adore cette histoire. Ça fait plusieurs fois qu'il me l'a dit.
Je radote en fait.
Il radote un peu, hein. Mais à nos âges, ça commence à être normal.
Comment ?
Alors, depuis tout à l'heure, derrière nous, il y a de belles photos qui passent. Ce sont des photos que vous allez retrouver là-dedans. D'ailleurs, oui, voilà, les portraits, là, je les vois. Il y a plein non, photos sûrement, de Jean-Pierre. Mais qui est ce garçon? Il y a bon, des belles photos avec ton papa, d'ailleurs, aussi.
Oui.
Voilà, et tu as toujours, en fait, entre les mains... Ah bah là, c'est
là,
les disques.
Là, c'est la photo que j'ai rien entre les mains, là.
Ouais, là, c'est... Voilà.
Voilà, là.
Cette guitare-là, oui. Tu l'as apportée aujourd'hui, et là, on va passer vraiment au Jean-Pierre Danel, musicien, puisque à chaque fois que vous voyez une guitare, là, depuis tout à l'heure, c'est... Prends-la.
C'est la même, c'est celle-ci.
C'est une guitare qui a un prénom, ce qui nous paraît peut-être incroyable, mais qui, pour un guitariste... un guitariste électrique, non, un guitariste tout court.
Oh, ça peut arriver, j'imagine. Sur
voilà. Alors, comment s'appelle ta guitare?
Cette guitare s'appelle Miss Daisy.
Voilà.
C'est une très ancienne guitare. C'est une guitare qui a une histoire un peu singulière. C'est une Fender Stratocaster, ce qui est assez banal en soi, parce que c'est la guitare la plus vendue de tous les temps, donc il y en a des millions et des millions. Mais celle-là, c'est une des 50 premières qui a été construite. C'est une guitare qu'on appelle de pré-production, c'est-à-dire c'est les 50 guitares que Fender a fabriquées avant que le modèle soit commercialisé, pour montrer au monde musical, aux musiciens en boutique, l'instrument totalement révolutionnaire qu'ils allaient sortir.
Alors,
sur cette guitare, il y a au moins une quinzaine de choses qui n'existaient avant sur aucune autre guitare. Et donc, quand cette guitare-là est arrivée, ils ont fait ces 50 instruments pour les montrer au magasin dans l'espoir que les gens allaient sauter dessus en commandant des camions entiers. Et ils se sont fait jeter, mais alors quelque chose de bien, le plus grand magasin de New York, sur lequel ils comptaient beaucoup, Fender, leur a dit, écoutez, je peux vous l'échanger contre le train électrique de mon fils, mais je ne sortirai pas un dollar pour un machin pareil. Il faut comprendre qu'à l'époque, les guitares, la plupart, à part... Une autre Fender qui existait précédemment, qui s'appelait la Telecaster, c'est une longue histoire, mais sinon la plupart des guitares...
Je crois que Clapton, il est sur Telecaster.
Non, il est sur Stratocaster aussi, ouais. Mais les guitares qui existaient jusqu'à ces guitares-là, qu'on appelle solid body, c'est-à-dire des guitares qui sont en bois plein comme ça et pas très épais. Les guitares précédentes qui étaient électrifiées étaient des guitares épaisses à caisse creuse, ouais. Des guitares acoustiques au départ avec un micro rajouté dedans. Le problème de ces guitares-là, c'est que on ne pouvait pas jouer très fort avec, parce que sinon le micro faisait ce qu'on appelle du Larsen, c'est-à-dire que ça siffle avec un ampli. En inventant ces guitares-là, ils ont résolu le problème du Larsen et un tas d'autres choses comme le vibrato, etc. Et ça a permis que les guitaristes deviennent des instrumentistes leaders, c'est-à-dire les vedettes du groupe. Jusque-là, les gens qui jouaient de la guitare, il y en avait dans tous les groupes. Les gens, l'orchestre de Frank Sinatra ou l'orchestre de Duke Ellington, ils avaient tous des guitaristes, mais on ne les entendait jamais. Ils étaient noyés par les cuivres, par la batterie, etc. Quand Fender a commercialisé ses guitares, c'est devenu la guitare qui permettait de se mettre en avant comme guitariste, et donc ça a créé le concept de guitare héros. Et c'est arrivé conjointement au rock'n'roll, et les deux se sont rencontrés, et ça a donné un bouleversement culturel que l'on connaît.
Donc tu me disais que cette guitare, sa naissance, elle est liée aussi à quelque chose avec, c'est quoi, un événement lié à Elvis Presley, tu disais.
Oui, c'est vrai. En fait, alors ça n'a pas de rapport, c'est un peu le hasard. De
oui, c'est le hasard. Hein.
En fait, cette guitare-là, donc, fait partie des 50 premières qui ont été présentées comme ça au printemps, et était 1954. Le manche de cette guitare est daté, il est de juin 1954, par un luthier qui s'appelait Tadeo Gomez. Ça fait rêver les collectionneurs, parce que quand on a une guitare avec le manche signé Tadeo Gomez, déjà, on est déjà dans le top du gratin. Et le corps a été terminé, il a été conçu avant, mais il a été totalement fini, il y a un petit autocollant de l'ouvrière qui a travaillé dessus, en date du 17 juillet 1954. Et en fait, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que quand j'ai acheté cette guitare, j'ai négocié ça pendant 3 ans et demi avec un musée à Tokyo, et avec l'aide de Fender, parce qu'on leur expliquait que ça serait bien qu'elle sorte de sa vitrine et qu'elle ait une vie musicale. Comme ils avaient besoin de renouveler leur collection, ils ont fini par accepter de me la vendre, c'était très long. Et je racontais ça à quelqu'un dont on a parlé de temps en temps ensemble, qui est Johnny Hallyday, et ça l'intéressait, mais bon, il me disait, tu sais, moi j'ai plus souvent craqué pour des motos que pour des guitares.
Voilà.
Et quand je lui ai dit que cette guitare avait été terminée le 17 juillet 1954, ça ne l'a pas ému plus que ça, mais j'ai dit, tu sais, ce jour-là, il y a un jeune artiste qui a donné son tout premier concert, c'était Elvis.
Alors là.
Et là, ça fait tilt, parce que Elvis était resté son héros.
Ouais.
Et donc, ça l'a ému, ça lui a parlé davantage.
Cette guitare, ça faisait combien de temps que tu la cherchais, tu l'attendais ?
25 ans.
25 ans. Ouais. Tu avais lu des choses dessus, tu avais...
Sur celle-là et sur les quelques autres. Ces 50 guitares-là, c'est une cinquantaine, on n'a pas le chiffre à l'unité près, mais ces guitares-là sont, depuis longtemps maintenant, soit dans des musées. Par exemple, il y a un des boss de Microsoft qui en a acheté une aux enchères chez Christie's à Londres et il l'a offert au musée du design américain. Ou alors elles sont entre les mains de guitaristes émérites.
Comme toi.
Voilà. Raison. Et. Non, mais des vrais guitaristes. Non, il y a George Harrison, on avait une. Enfin bon, des gens comme ça. Et. Donc évidemment, il n'y en a pas beaucoup à vendre. Et quand il y en a à vendre, c'est un petit peu compliqué parce que ça a un certain prix. Et voilà. Et donc, cette guitare-là n'était pas en vente. Elle était dans un musée, comme beaucoup d'autres. Et. J'ai pensé qu'il y avait peut-être une opportunité, ça a duré 3 ans et demi, et elle est arrivée à la maison finalement.
Elle est arrivée à la maison pour tes 40 ans ?
Non, c'est bien avant.
Bien avant ?
Ouais. Non, c'était pas...
C'était pas particulier ?
Non, non. Non.
D'accord.
J'ai pas choisi la date.
Il y a tes copains qui viennent jouer dessus. The Best Guitarists of the World.
Il y en a quelques-uns, pas mal. Brian May, de Queen, qui a joué dessus. Il y a Hank Marvin, des Shadows. Albert Lee, un grand guitariste de country.
Oui, tu disais qu'Albert Lee, il l'avait regardé en tremblant.
Oui, on a enregistré un de nos duos, un duo qu'on a fait ensemble à Abbeywood, le studio des Beatles, ce qui était déjà en soi déjà assez sympathique. Enregistré avec Albert à Abbeywood, c'était bien déjà. Et c'était rigolo parce qu'on avait repris un morceau que Eric Clapton a rendu célèbre. Et Albert arrive, il me dit, bon, on va faire simple, je fais ma partie, tu fais celle d'Eric. Je dis, c'est gentil de ne pas me mettre la pression, c'est sympa. Et bon, et il me dit, est-ce que tu as amené Miss Daisy ? Je dis, bien sûr. Et elle était posée sur une chaise ou un tabouret. Il me dit, mais tu l'as laissée comme ça ? Et il s'est approché en tremblant. C'est-à-dire, vraiment, on a l'impression qu'il s'approchait de la Joconde. Mais c'était émouvant. Et c'est le cas de tout. C'est-à-dire que grand ou petit, célèbre ou pas, les guitaristes sont émus parce que c'est vraiment... C'est comme, je ne sais pas avec quoi on pourrait comparer ça.
Tu disais avec un Stradivarius.
Un tableau d'un grand maître ou quelque chose comme ça. Pour les gens qui aiment ça, c'est très émouvant ce que sont les guitares vraiment exceptionnelles.
Alors pourtant, je vais te dire, elle est cracra.
Bien sûr, elle est râpée.
Elle est vioque, un peu moche.
Elle est râpée.
Elle est un peu râpée, elle est un peu cracra.
C'est très bon signe.
C'est très bon signe.
Ben oui, parce qu'une guitare qui est râpée, c'est qu'elle a joué. Si elle a beaucoup joué, c'est que c'est une bonne guitare.
Donc tu as plein de guitares.
Ouais,
j'ai noté. Arrête, tu me l'as dit tout à l'heure d'ailleurs que j'avais raison. T'as 50 Stratocaster.
Oui,
t'as l'une des plus belles collections d'Europe.
C'est ce que certains ont dit. Je ne sais pas si c'est si vrai que ça, mais on l'a dit peut-être. Oui, on l'a dit et c'est peut-être vrai. Mais en tout cas, celle-là, c'est une guitare très.
Et ton discours dessus, sur ta guitare et sur d'autres, il est rodé parce que tu as consacré un livre ou tu as consacré un livre au Strato en général.
Alors, j'ai fait deux choses. J'ai fait un livre sur la Fender Stratocaster. Très beau livre que je vous conseille. Excellent.
4 kilos.
Oui, c'est le poids de la guitare. En et il y en a un qui devait sortir là, qui avec le confinement était un peu retardé, qui est sur Miss Daisy en particulier, parce qu'on a beaucoup de demandes, parce que les gens s'intéressent à cette guitare, enfin les gens. Les gens qui aiment la guitare et les collectionneurs, je reçois souvent des mails en me demandant des nouvelles de Miss Daisy, d'un peu partout, du Brésil, du Japon, du Chili, il n'y a pas longtemps. Et c'était intéressant, il y a des choses à raconter, parce que cette guitare, on ne connaît pas toute sa vie avant que je l'ai eue, mais elle est intrinsèquement exceptionnelle au sens premier du terme, vraiment d'exception. Et puis depuis que je l'ai, elle a vécu quelques petites aventures rigolotes. Donc ça lui fait un pedigree un peu sympa. Et on a fait beaucoup de photos qui vont permettre aux gens de voir ces guitares qui sont très rares évidemment, comme sans doute jamais ils les ont vues vraiment dans le détail. Et c'est vrai que ça excite la curiosité. Même Hank Marvin des Shadows, quand il a su que je l'avais, je lui ai envoyé un mail parce qu'il habite en Australie maintenant, il est à Perth. Et Hank m'a demandé s'il pouvait la voir. Il est venu à Paris, à la maison, exprès d'Australie pour voir la guitare. C'était quand même mignon.
Ouais, c'est superbe. Ouais. Bon, alors, pour en finir avec Miss Daisy, je ne dévoilerai pas le prix de cet instrument. Je vous donne juste un indice. Cette mamie guitare coûte 15 fois le prix de ma maison. Mais ceux qui me connaissent, par ailleurs...
Mais tu vis dans un igloo, faut quand même préciser les choses.
Sont pas...
Ouais, mais ça, c'est un côté qui est très déraisonnable. C'est l'effet de collectionnite aiguë.
Ah, je sais que t'es le roi de la collectionnite, parce que tu as 19 000 voitures miniatures, quelque part.
Un peu plus que ça.
Ça fait peur. Alors, on a voulu lui demander de venir avec ses 19 000 voitures miniatures. Il a dit non, je trouve petit joueur sur ce coup-là, Jean-Pierre.
C'est vrai.
Je suis un peu déçu.
C'est-à-dire que je t'ai épargné le coup de plumeau nécessaire sur chaque voiture. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est mieux que je ne les ai pas amenés. Oui, c'est un truc de mot. Quand j'étais petit, comme dirait Michel Sardou, quand j'étais petit garçon, j'avais ces petites voitures, comme la plupart des enfants de cette époque-là, des petites matchbox, des petites majorettes. Et puis, c'était toujours, par exemple, quand je perdais une dent, la petite souris m'a amené une petite voiture. Et je me rappelle laquelle, d'ailleurs. Et j'ai continué, après, à en acheter. Et puis, avec le temps, maintenant que j'ai un âge extrêmement respectable, ça finit par faire beaucoup de voitures. Donc là, ouais, je crois que j'en ai 21 000, un truc comme ça. C'est une très belle collection qui ne sert strictement à rien et c'est tout l'intérêt du truc.
Complètement.
Il n'y a pas d'enjeu et donc ça déstresse vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ont des hobbies qui les stressent infiniment parce qu'ils font des choses de précision ou des choses qui sont complexes ou, par exemple, je sais pas, ils vont à la pêche, il ne faut pas faire de bruit, il faut se lever à 5 h du matin. En fait, ça devient un stress.
Oui.
Et là, ça ne sert à rien. Et donc, du coup, ça détend. Vraiment. C'est l'intérêt du truc.
C'est absurde, cette discussion est absolument absurde. Alors, écoutez, encore une fois, Jean-Pierre, t'as une mémoire phénoménale. Alors, ça, c'est truffé. Si vous aimez les people, moi, je disais à Jean-Pierre que j'aime pas trop les people. C'est mon côté snob ou roturière. Je ne suis pas très impressionnée. Je suis plus impressionnée quand il est là et puis il me dit des petits trucs dérisoires, en fait. C'est ça qui me fait craquer. Mais si vous aimez les people, si vous aimez les stars, il y en a à l'appel. Et il connaît tous les noms par cœur. Et on se balade des stars rencontrées par même ses grands-parents, comme il le disait, artistes. Évidemment, papa-maman. Dans le milieu de papa-maman, t'es entouré de stars.
Il y en a eu, oui.
Hein?
Ouais.
Et puis par la suite, tous ceux qu'il a rencontré encore la semaine dernière pour la signature de ton bouquin.
Ouais, salon du livre.
Jean-Pierre Danel, au micro de Sandrine Manteau à l'occasion de la sortie de son livre « Cordes sensibles ». C'est une interview que vous retrouverez en vidéo sur les réseaux, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook avec plein d'autres. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nous étions entre Loire et Loin. Je remercie toute l'équipe, Sandrine Manteau évidemment, Anaïs, Maïline qui ont joué les reporters en herbe aujourd'hui, Anita, JB, toute l'équipe de C2L. On se donne rendez-vous samedi prochain à 10h pour un nouveau numéro à la radio. C'était Pascal Weber au micro et à la réalisation. Bonne semaine à toutes et à tous. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be people with minds I hate. All I can tell you is bother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright.
you'd move better than one.